On va changer de sexe. On parlait des garçons. Oui. Ouais. Enfin, on va parler des smicards du tennis.
C'est une image.
Pourquoi ? Parce que Laurent Locoli, ça ne vous a pas échappé aujourd'hui, accède au dernier tour des qualifications de Roland-Garros. Il a battu aujourd'hui la tête de série numéro 7, le japonais Watanuki, 4-6, 6-4, 6-3. Et ce garçon est ce qu'on appelle un smicard du tennis, un galérien, comme ils se surnomment eux-mêmes. Ces joueurs qui enchaînent les tournois de troisième niveau, les futurs, hein. Pour ceux qui connaissent bien le tennis, c'est vraiment le premier échelon et c'est un tournoi qui est ouvert à tous, avec des prize money qui permettent tout juste de s'en sortir. Et je vous propose de l'écouter, Laurent Locoli, justement, à propos de ce circuit particulier qui demande beaucoup d'énergie et qui explique pourquoi il savoure aujourd'hui le fait de pouvoir accéder au troisième tour des qualifications. Et c'était au micro d'Axel May cet après-midi.
Aujourd'hui, c'est un aspect du tennis, du monde du tennis professionnel qui est très très dur. Dans la mentalité, moi je me considère vraiment comme un joueur de futur. Parce que je sais ce qu'il faut pour arriver là, je sais ce que c'est que de manquer, je sais ce que c'est que de devoir faire très très attention au niveau financier, parce que je sais à quel point c'est dur de partir tout seul sur des tournois, de devoir essayer de les gagner, et même quand tu les gagnes, de savoir que tu es à perte. Mais tu es dans un coin de ta tête, le fait de te dire que tu vas arriver à jouer ces tournois-là, tu vas arriver à t'en sortir par tes propres moyens. Et aujourd'hui, oui, je l'ai toujours dans un coin de ma tête, et je pense que c'est ça qui me fait garder la tête sur les épaules, parce que je sais d'où je viens, je sais où je veux aller, mais je prends vraiment les choses étape par étape. Et évidemment qu'aujourd'hui, quand tu es top 200 et que tu sais que tu as la chance de pouvoir jouer les qualifs de Grand Chelem, ça fait une rentrée d'argent quand même conséquente sur ces quatre tournois-là. Et encore une fois, si tu as ce petit bonus, cette petite étoile, cette petite chance de pouvoir passer ces tours-là, ben forcément, ça grossit un petit peu. Mais moi, c'est toujours dans un objectif d'investissement. Voilà, d'investissement pour améliorer ma structure, pouvoir faire venir un préparateur physique, un kiné, et en fait, agrandir mon staff sur les tournois. Parce que moi, c'est en ce sens que j'ai envie d'évoluer.
Le témoignage est édifiant, mais très, très intéressant, très touchant aussi, hein, de Laurent Locoli. Je vous conseille d'ailleurs la lecture dans l'équipe Explore ce matin
de Quentin Moinet.
Ah ouais, le reportage de Quentin Moinet sur ces joueurs qui galèrent, qui parcourent le monde pour essayer de vivre de leur passion est absolument bluffant. J'y ai trouvé plein d'informations précieuses, notamment effectivement les prize money, et quand on voit ce que gagnent ces joueurs et ce qu'ils dépensent finalement à l'arrivée, ils en sont de leur poche à chaque fois. Et c'est pour ça que moi j'avais vraiment envie ce soir de faire un éclairage sur ces joueurs qui se donnent énormément pour être dans la lumière. Et Laurent Locoli est un bon exemple, puisque là il vient de passer, tout comme Lucas Pouille d'ailleurs, le deuxième tour des qualifications. Lucas Pouille est passé aussi
Geoffrey Blancano aussi. Voilà, il y a trois Français et trois Françaises au troisième tour des qualifications. Voilà.
Cédric Pioline, vous les côtoyez, ces joueurs vous les connaissez, vous l'avez lu sans doute ce reportage, c'est le quotidien de plein de passionnés de tennis, et il y en a certains parmi les qualifications, quoi. Donc c'est vraiment génial pour eux de se retrouver à Roland-Garros, quoi.
Bah c'est génial. C'est une grande respiration à plein de niveaux. Il a parlé du côté financier, mais on va y revenir, mais surtout de jouer devant du public dans des conditions d'organisation et des structures qui sont incroyables, hein, niveau Grand Chelem, et évidemment la motivation aussi est d'une certaine manière beaucoup plus simple et naturel à avoir, d'autant plus que Locoli, ben là, il évolue devant un public français. C'est un joueur que le public connaît, hein, qui s'est qualifié déjà, qui a souvent des matchs compliqués, hein, au premier tour, des 4-7, des 5-7, parfois gagnés, parfois perdus. Mais oui, pour répondre à votre question, si je me trompe pas, au premier tour des qualifications de Roland-Garros, c'est 35 000 euros si jamais on perd.
Non, 16 000 euros.
16 000.
Pardon,
c'est
16 000 euros.
C'est quand on perd au troisième tour. Au troisième tour, on gagne 34 000 euros.
Donc là, donc il est assuré d'avoir 34 000 euros, ce qui est une somme qui, comme il l'a dit, lui permettra de réinvestir dans sa saison. Ça coûte cher, une saison. Et pour illustrer, un premier tour dans un futur, c'est $150.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, alors, quand vous dites investir dans sa structure, pardon, je vous coupe deux secondes, Cédric Pioline, c'est qu'en fait, il faut payer soi-même. On le rappelle pour nos auditeurs qui ne sont pas super spécialistes, son entraîneur, son kiné, ses chambres d'hôtel, tout. et tout ça mis bout à bout fait que généralement ce qu'on gagne sert juste à payer les frais.
À ce niveau-là, sur un joueur comme Laurent Locoli qui joue sur le circuit futur, ne part pas dans un tournoi avec son entraîneur et son préparateur physique. Il n'en a pas les moyens.
C'est
il ne peut pas avoir ça. Il n'a aucun accompagnant avec lui.
Non, mais ponctuellement, quand il prend un entraîneur ou un coach, il faut le payer. C'est
ça.
Il dit que c'était minimum 5000 euros quoi, pour un bon entraîneur. Quoi.
C'est ce que disait. À ce niveau-là, on va dire que ça va leur coûter, allez, une saison complète, ça va leur coûter 50 à 60 000 euros. Et ils vont gagner quoi ? Entre 20 et 30 000 euros.
C'est
donc ils vont avoir deux fois plus de frais que de gains dans l'absolu. C'est, effectivement, c'est, bon, on ne se rend pas compte, hein, ce sont des mineurs de fond, hein, c'est germinal,
c'est
ils descendent dans la mine. Hein. Et pour avoir cette petite heure de gloire de temps en temps, parce que vous êtes français ou américain ou anglais et australien, et vous avez la chance d'avoir des tournois du grand chelem dans votre pays.
C'est ça. Je vous laisse finir, Cédric.
Oui, non, mais en complément, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que moi, ça m'a frappé la phrase de Locoli, hein, qui est quand même déjà un très très bon joueur de tennis.
Il est 198e mondial.
Oui, et je me considère comme un joueur de futur. Et c'est vrai que Locoli, il a quoi, Benoît ? Il a 26 ans, 27 ans,
un truc comme ça.
Il a 28 ans déjà.
28 ans. Donc ça fait un moment en fait que il a pas vraiment réussi à percer. Il se bagarre et on a vu l'Estienne, par exemple, c'est un bon exemple, hein, à 31 ans qui arrive à craquer cette barrière symbolique des 100 premiers. Donc l'espoir est là et c'est ce qui fait avancer. Il y a dans cet article magnifique, il y a Wang aussi qui en parle, qui a été dans les 100 premiers et qui dit je cours après, c'est comme une drogue, je cours après ces émotions formidables que j'ai vécues lorsque justement il y a la victoire. Et donc je pense que ce qui est important, alors on le dit toujours, hein, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus évidemment, mais c'est de ne pas rester trop longtemps dans certaines zones de tournois où finalement oui, il y a aussi un peu, et c'est avec tout le respect que je leur dois, hein, parce que moi aussi je suis passé par là et j'ai eu la chance d'en sortir très vite, on est un petit peu dans une forme de médiocrité du tennis en fait, où tout est moyen, tout est un peu pourri et oui, c'est celui qui a le plus faim, qui a un peu de chance aussi, qui s'en sort. Et puis il y a des barrières psychologiques qui sautent où on se dit je suis pas un joueur de qui a envie d'évoluer à cet endroit-là. Je vais passer le cap et je vais devenir un joueur de challenger et puis un joueur du circuit, du grand circuit. Et puis même dans le grand circuit, lorsqu'on joue les 250, on fait pas forcément tous les tournois parce que c'est pas tous toujours les mêmes formats de tableaux. Et c'est pour ça que je suis pas complètement d'accord non plus avec Benoît est assez négatif sur l'évolution de certains Master 1000 qui sont passés en 12 jours. Mais c'est une des préoccupations de l'ATP qui, je rappelle, représente les tournois et les joueurs, c'est de donner plus de jobs et plus de moyens au maximum de joueurs. Donc quelque part, cette évolution sur cet aspect-là, je parle bien sur cet aspect-là, est extrêmement positive d'avoir des tournois de 96 joueurs qui permettent à beaucoup plus de joueurs de gagner leur vie.
Sur cet aspect-là, je te rejoins. Oui. Sur d'autres aspects, je ne te rejoins pas. Mais sur cet aspect-là, bien évidemment. Mais encore une fois, on ne se rend pas compte parce qu'on parle toujours de tennis. Le tennis, on pense tout de suite à Djokovic qui a dû gagner, je ne sais pas, je sais même pas combien il a dû gagner sur l'ensemble de sa carrière. On doit être pas loin des 200
150.
Millions, ouais, 150 ou 200 millions de dollars de prize money cumulés, sans parler des sponsors bien sûr autour. Enfin, c'est complètement fou. Mais ou d'un Daniil Medvedev qui, depuis le début de la saison, en ayant gagné 5 tournois, on est déjà à plus de 4,5 millions de gains. Mais là, on parle de joueurs qui sont sur les circuits principaux, qui sont invités dans les tournois, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas leur hôtel, ils ne payent pas le transport, alors que dans les petits tournois, vous payez tout.
Oui, c'est ça.
Et puis en plus, même...
Si, ils payent le transport, Benoît.
Oui, non, mais le transport, je parle entre l'hôtel et le tournoi, je ne te parle pas de l'avion.
Quand même.
Mais en plus, il y a toujours aussi cette idée que on gagne beaucoup d'argent quand on joue au tennis, mais il ne faut pas oublier que suivant les pays dans lesquels on va jouer au tennis, il va y avoir des taxes qui sont différentes par rapport aux pays dans lesquels vous jouez. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles des fois on se dit vous êtes joueur de tennis, c'est sûr, vous êtes forcément millionnaire. Non, loin de là, très loin de là. On va dire que entre le premier joueur mondial et le centième, vous gagnez de l'argent. Entre le centième et le 200e, je vais dire que dans l'absolu, vous êtes à l'équilibre. Au-delà de la 200e place mondiale, vous perdez de l'argent.
D'accord. Philippe Doucet.
Je rappelle
en complément que de ce que dit Benoît, c'est que ces joueurs-là, Djokovic, Medvedev et tous les autres, sont passés aussi par les mêmes étapes. Qu'un Medvedev a quitté sa Russie pour s'installer sur la Côte d'Azur et que c'était compliqué financièrement au début. Évidemment, une fois qu'on gagne les matchs, c'est pas qu'on oublie, mais enfin, il y a beaucoup d'argent qui rentre et on ne se pose plus la question. Oui, mais complètement de braquet.
C'est ça, mais quand Lucas Pouille, par exemple, qui a connu lui le top 10 et qui se retrouve au fond du sachet, à la mine, hein, comme vous le dites, Benoît, pour lui, ça a été très dur. Il le raconte d'ailleurs dans son reportage.
C'est forcément difficile, même si je pense qu'il a quand même suffisamment eu de bonnes années pour continuer d'être ambitieux, continuer d'être bien entouré par un véritable staff et autres, alors que celui qui ne décolle jamais, comme Laurent Locoli, qui n'a jamais dépassé, je crois, la 160e place ou quelque chose comme ça, alors que c'était un espoir qu'on regardait de près, je me rappelle,
Il y a 9 ans, il sortait des qualifications.
Absolument. Et finalement, il n'a jamais évolué, donc il n'a jamais eu ses entraîneurs avec lui, comme
Hugo
le racontait
Gaston
Benoît.
Aussi, vient de là, je crois.
C'est la seule fois où je parlerai de foot dans l'émission ce soir. Il faut quand même se rendre compte que c'est des sports complètement différents. Déjà, vous êtes complètement dépendant de gagner. C'est vous gagnez ou vous perdez.
Et de votre physique.
Quand vous perdez, vous êtes éliminé, c'est terminé, vous disparaissez du tournoi. Et puis surtout, en France, il y a 1000 professionnels, et il y en a même plus. Il y a 1000 sur la Ligue 1, Ligue 2. Après, il y a des joueurs qui gagnent leur vie très correctement en national, en N2, en N3, voire en R1, R2 dans certaines régions. Et ça fait un nombre de joueurs qui vivent du football très correctement, puis en étant salariés. Enfin, je ne dis pas que c'est confortable, que c'est facile, évidemment. C'est dur dans tous les sports d'être au très haut niveau. Mais en tennis, il faut se rendre compte de l'équivalent. Vous vous rendez compte, le millième joueur français en foot, il est en Ligue 2 et il vit paisiblement, ça va, correctement. Le millième joueur français de tennis, s'il gagne un peu l'été en jouant au Touquet et à la Cano,
il joue
quelques petits tournois l'été.
Il y a aussi les interclubs, les compétitions par équipe qui permettent de gagner un peu d'argent aussi.
On ne peut pas vivre de sa passion
c'est
impossible.
Si on veut faire un comparatif comme ça par rapport à Laurent Locoli qu'on a entendu, c'est assez intéressant. Voilà, lui, depuis le début de la saison, il a gagné à peu près, on va dire, 100 000 euros de gains sur les premiers mois de cette année 2023. Donc s'il arrive au premier tour de Roland-Garros et qu'il perd au premier tour de Roland-Garros, il va gagner 69 000 euros.
Ce qui est dingue.
C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes Laurent Locoli, vous dites « Ok, super, c'est-à-dire que mon année 2023, elle est assurée. Je vais peut-être même pouvoir me payer mon entraîneur avec moi sur certains tournois, ce qui peut vous permettre aussi, peut-être, de progresser, parce que le regard extérieur est toujours important, donc de progresser, d'avancer au niveau du classement, peut-être de rentrer dans des tournois de plus importantes catégories, et tout d'un coup votre carrière peut aussi complètement changer. Et après, bien évidemment, quand on voit que sur l'ensemble de sa carrière, Laurent Locoli, il a dû gagner, je sais pas, 400 000 euros, je crois, quelque chose comme ça. Un quart de finaliste aujourd'hui à Roland-Garros, quand il perd en quart de finale, il gagne 400 000 euros. Donc il y a un gap qui est monumental.